Allô Patrick.
Bonjour.
Me semble que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas passé par nos studios. Très heureuse de vous avoir aujourd'hui.
Fait plaisir.
Patrick, bon, je parlais de ce livre de Julia Anders, mais il y a l'émission Découverte qui a fait un reportage sur le microbiote, les magazines L'Actualité, Québec Science, j'en passe. Il y a un buzz, comme on pourrait dire, autour du microbiote. Pourquoi on en parle autant? J'ai l'impression depuis quelques années.
Mais en fait, c'est qu'on commence à mieux comprendre le rôle des micro-organismes qui se retrouvent sur notre corps et dans notre corps. Parce que c'est ça, le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des bactéries, virus, levures, protozoaires, donc tous les micro-organismes qu'on héberge qui ont finalement un impact sur notre santé, qui peuvent avoir un impact sur certaines maladies. Et ça, on commence à peine à découvrir la pointe de l'iceberg.
Pourquoi on utilise moins le terme flore intestinale? Est-ce qu'il y a une raison pour ça?
Mais en fait, le terme flore intestinale vient surtout des premiers scientifiques qui ont découvert les micro-organismes. À l'époque, ils pensaient que c'était des petites plantes microscopiques. Et donc, pensant que c'était des plantes, ils leur ont donné le nom de la flore.
Ah.
Mais maintenant, avec les années, on a découvert que c'était pas des plantes, que c'était des organismes à part entière. Puis le terme microbiote s'est imposé de soi, considérant qu'on va parler d'un biote comme étant un ensemble d'organismes qui vivent dans un ensemble, dans un habitat.
Ah, oui,
et donc,
okay.
Quand on parle du microbiote, c'est comme le petit biote, donc tous les micro-organismes qui vivent sur nous et en nous.
Parlons-en de ces micro-organismes-là. Il y en a à peu près combien dans notre corps?
Je vous dirais qu'il y en a environ 100 000 milliards de bactéries. Donc, c'est quand même énorme. Ça correspond à peu près à 2,2 kilos, donc de notre masse corporelle qui est de micro-organismes. Là-dessus, on a identifié environ entre 1 000 et 1 500 espèces bactériennes différentes à travers les individus des différentes populations. Mais je vous dirais qu'en général, une personne va héberger environ 160 espèces bactériennes différentes, principalement dans son microbiote intestinal.
OK. Est-ce qu'entre chaque humain, on partage ces mêmes espèces? Est-ce que je partage les mêmes espèces qu'une fille de mon âge qui vit en Afrique, par exemple?
On partage les mêmes espèces, mais je vous dirais qu'il y a environ 2/3 des espèces qui sont variables chez 90 % de la population. Donc, on peut établir que notre microbiote est à proprement parler un peu nos empreintes digitales microbiennes.
Ouais.
Et donc, même si on des gens d'un même groupe d'âge, des gens de différentes nationalités, différentes cultures, vont avoir des microbiotes qui sont passablement différents.
Donc, on est unique de par notre microbiote.
Oui, le microbiote est le reflet de qui nous sommes.
Wow. Pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi? Bon, on comprend, ce sont des milliards de micro-organismes, levures, bactéries, virus, que l'on abrite là, dans notre corps. Mais encore, bon, on sait qu'on en a dans notre intestin, il y en a ailleurs aussi.
Oui, il y en a sur la peau, on en retrouve dans la bouche, on en retrouve dans les voies respiratoires. Chez les femmes, on en retrouve au niveau de la muqueuse vaginale. Mais le microbiote intestinal est certainement celui qui est le plus diversifié et le plus abondant chez l'être humain.
Oui, et qui a un impact sur notre santé et sur nos maladies aussi. On va y revenir, mais d'une part, premièrement, comment ça se forme, un microbiote?
Mais le microbiote, il se forme au gré du temps. À partir du moment que l'enfant va venir au monde, en fonction de son alimentation, au départ, dépendamment s'il vient au monde par voie vaginale ou par césarienne, ça va conditionner le microbiote. Les enfants qui viennent au monde de voie vaginale, on va retrouver davantage de ce type de micro-organismes-là dans leur microbiote comparativement aux enfants qui viennent au monde par césarienne, où là, on va retrouver un microbiote qui est plus lié à la peau de la mère, un microbiote cutané.
Ouais, ouais.
Puis par la suite, bien, je vous dirais que c'est surtout notre hérédité qui va conditionner notre microbiote parce que notre hérédité définit qui nous sommes et donc pour qui, quelle bactérie va s'intéresser à nous d'une certaine façon.
Ouais, ouais, ouais.
Et ultimement, notre alimentation, là, qui est le principal facteur qui conditionne notre microbiote.
Mais j'imagine aussi l'endroit où l'on vit, si on vit sur une ferme, si on vit en ville, si je reviens avec cet exemple de l'Afrique, ça aussi, ça doit avoir une incidence.
Oui, l'environnement dans lequel on se retrouve, je voudrais le stress auquel on est exposé, les médicaments qu'on va consommer, si on subit des interventions médicales, les infections, notre âge, notre état de santé, notre hérédité, c'est tous des facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui vont faire qu'on ait un terrain propice pour telle et telle bactérie, alors que notre voisin va être un terrain propice pour d'autres bactéries différentes.
Oui. Bon, on parle de ces bactéries qu'on comprend bien. Elles sont nos amies, ces bactéries-là. Mais qu'est-ce qui fait que parfois on peut tomber malade? Est-ce qu'il y en a qui sont moins bonnes pour nous?
Mais le secret pour rester en santé, surtout à ce niveau-là, c'est d'avoir un microbiote qui va être diversifié, qui va être abondant et qui va être riche. À partir du moment qu'on perd cette diversité-là, il peut y avoir différents facteurs qui viennent rentrer en ligne de compte, dont entre autres la prise d'antibiotiques. Ouais. On va tomber ce qu'on appelle dans un état de dysbiose, donc de déséquilibre de notre microbiote intestinal, j'allais dire flore, mais de notre microbiote. Ouais. Et à partir du moment où le microbiote est déséquilibré, il remplit moins bien ses rôles. Et c'est là que, comme vous parliez au début de l'émission, qu'au niveau de la science, de la médecine, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de liens entre certaines maladies pour lesquelles on avait de la difficulté à comprendre d'où ça pouvait provenir. Et on se rend compte maintenant qu'on est peut-être plus en lien avec un microbiote qui est déstabilisé, donc qui est en dysbiose.
Oui, parce que si on prend l'exemple des antibiotiques, ça tue certaines bactéries qui pourraient être nos amies. Oui. Est-ce que ça peut se renouveler après?
Le microbiote se renouvelle. Ça prend un certain temps. Je vous dirais que c'est souvent quelques semaines, quelques mois que ça va prendre à ramener l'équilibre, ce qu'on appelle la résilience du microbiote, donc sa capacité à retrouver son état d'origine. Mais encore là, d'un individu à l'autre, il peut y avoir beaucoup de variations.
Oui. Parlons-en de ce rôle que joue le microbiote dans notre santé, dans notre organisme, et ce, tout au cours de la vie. Bon, je sais qu'il a ce rôle de discuter avec notre cerveau, entre autres choses.
Entre autres choses, oui. Mais en fait, comme je vous disais, les bactéries qui sont présentes représentent, par rapport à nos gènes, il y a 150 fois plus de gènes bactériens dans notre corps qui correspondent à l'ensemble des bactéries que de gènes humains. Et tous ces gènes-là codent pour des molécules qui se retrouvent ultimement dans le microbiote au niveau de la flore, au niveau de l'intestin, et qui peuvent traverser dans le sang et là se distribuer dans le corps. Et là, les liens qu'on est en train de faire, c'est de se dire: les molécules qui sont produites par ces micro-organismes-là, s'ils se retrouvent dans mon sang puis ils vont jusqu'à mon cerveau, est-ce que rendus là-bas, ils peuvent avoir un impact? Est-ce qu'il y a une maladie ou une condition qui peut être liée à ça? Ou si c'est seulement comme le fruit du hasard?
Oui, oui. Elles se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent de quoi, ces micro-organismes?
De l'ensemble des aliments que nous, on va consommer. Donc, c'est nous qu'on les nourrit. Puis encore là, dépendamment si on a une diète qui est plus de type végétarienne, une diète qui est plus de type carnivore, une diète qui est plus axée de type fast-food, bien, on va venir changer la composition de notre microbiote, parce qu'il y a certaines bactéries qui, à défaut d'avoir les aliments qu'elles ont envie de consommer, vont décider de nous quitter.
Et il y en
a d'autres qui vont être très friandes de l'alimentation qu'on leur donne, donc ils vont avoir tendance à prendre de l'espace.
Oui, comme le sucre, par exemple.
Entre autres.
Oui. Et de là, l'importance de varier son alimentation.
L'importance de varier ça. Les nutritionnistes nous le disent depuis plusieurs années. Mangeons variés, mangeons des légumes de différentes couleurs, varions nos sources de nutriments, nos sources de protéines. Mais tout ça, au final, c'est ce à quoi on expose notre microbiote. Et en ayant une alimentation qui est variée, on s'assure d'avoir un microbiote qui est bien diversifié aussi.
Ce qui assure notre santé à long
terme. Ce qui assure notre santé, oui.
Lorsque survient une gastro ou peut-être de façon plus grave, E. coli ou ce type de maladie-là, qu'est-ce qui arrive dans notre système? Parce que ça aussi, ça touche notre microbiote et nos micro-organismes.
Mais en fait, quand on contracte une infection puis qu'on a un terrain propice à développer cette infection-là, c'est qu'il y a une bactérie qui ne devrait pas, en l'occurrence E. coli ou salmonelle ou quelconque bactérie pathogène, qui ne devrait pas être là, qui a trouvé l'opportunité de venir s'installer, de se multiplier et là d'avoir un effet qui va être négatif. Donc, d'une part, notre corps va chercher à rétablir l'équilibre. On va avoir une réponse immunitaire qui va essayer d'endiguer l'infection. Notre microbiote intestinal va être en compétition contre cet intrus-là qu'on cherche à évincer. Ultimement, on peut avoir besoin de prendre des antibiotiques, mais c'est que notre corps va mettre en place une série de mécanismes pour retrouver l'équilibre qui était favorable à un bon état de santé.
Est-ce, si je comprends bien, vous me corrigez si je me trompe, Patrick, deux personnes sont dans un environnement où ils peuvent contracter E. coli, par exemple. L'un ne va pas le développer parce qu'il a les micro-organismes pour se défendre et l'autre pourrait l'attraper parce que c'est pas le cas?
D'une part, et aussi d'autre part, si la personne a déjà une immunité, parce que sa mémoire immunitaire va rentrer en ligne de compte. Si la personne elle est déjà immunisée contre cette bactérie-là, elle va mieux s'en protéger qu'une personne qui ne le serait pas. Mais oui, effectivement, le microbiote, une de ses fonctions, c'est de prévenir la colonisation par des bactéries qui sont pathogènes. Et donc, à ce moment-là, va être un des acteurs qui assure une protection plus complète de notre corps.
Parce qu'elles peuvent se reconnaître entre elles et dire « Ah non, toi, t'es méchante, t'es pas dans notre gang. »
Oui, d'une certaine façon, oui, on pourrait voir ça comme ça.
Je veux revenir à cette discussion que le microbiote peut entretenir avec notre cerveau et qui peut avoir un impact sur certaines maladies, entre autres neurodégénératives. Mais on parle aussi de d'autres types de maladies, obésité, autisme aussi. On est en train de découvrir qu'un microbiote moins en santé pourrait être responsable de ce genre de maladie.
Oui, effectivement. Puis ce qu'on observe surtout, parce que là, on est au niveau de la science, on est encore à l'étape des corrélations. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand on prend des gens qui sont obèses versus des gens qui sont minces, donc qui ont un poids santé, la composition microbienne n'est pas la même. Quand on regarde des gens qui souffrent d'autisme versus la population contrôle, les gens qui souffrent d'autisme ont une variété de micro-organismes qui est différente et ainsi de suite. On retrouve ça au niveau de l'obésité, du diabète, les gens qui souffrent de syndrome métabolique, les maladies inflammatoires de l'intestin, maladie de Crohn, colite ulcéreuse, maladie de cœliaque. Donc, c'est tout des groupes de personnes qui souffrent d'une maladie où on se rend compte que le microbiote est différent. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est la maladie, de par ses effets, qui a sélectionné des nouveaux micro-organismes?
Ah ouais.
Ou est-ce que c'est parce que ces micro-organismes-là étaient présents que ça a donné un terrain fertile à la maladie? Donc, je vous dirais que dans l'état de la science où elle est aujourd'hui, c'est qu'on voit une corrélation, mais on cherche à comprendre s'il y a vraiment un lien causal entre les deux. Puis si je peux me permettre de donner un exemple à nos auditeurs pour bien comprendre le lien causal, j'avais un prof d'épidémiologie qui a déjà donné comme exemple qu'en France, entre 1990 et 2000, il y a une diminution du taux de natalité. Mais parallèlement, on a observé aussi une diminution des populations de cigognes. Et donc, quand on compare les deux effets, on se rend compte, il y a moins d'enfants, puis parallèlement, il y a moins de cigognes. Mais là, je vous laisse le soin de réfléchir, à savoir, est-ce qu'il y a vraiment un lien de causalité? C'est-tu parce qu'il y avait vraiment moins de cigognes qu'il y a moins d'enfants? donc, c'est un peu à ce niveau-là qu'on se retrouve. On voit la différence, mais on cherche à comprendre, y a-tu vraiment un lien ou si c'est le fruit du hasard? Mais je vous dirais que les recherches présentement tentent de plus en plus de prouver le lien causal, mais on est encore au tout début de cette science-là qui est en effervescence. Ouais.
Toutes ces questions qui sont posées par des scientifiques à travers le monde, parce que le microbiote, ça intéresse les chercheurs de partout, comment ça va changer notre façon de pratiquer la médecine et de faire de la recherche aussi?
Mais au niveau de la médecine, ce qu'on en comprend, c'est que quand on prend un médicament, le médicament, avant de se retrouver dans notre sang, passe par notre intestin, donc passe par les bactéries de l'intestin. Et il y a certaines bactéries qui vont avoir tendance à dégrader un médicament. Il y en a qui vont avoir tendance à le désactiver, d'autres qui vont le dégrader et ça va produire un composé qui est toxique. Et là, c'est toute la base de la médecine personnalisée où on se rend compte que quand on parle à des gens qui disent « Ah, non, moi, la dose n'était pas suffisante, il faut l'augmenter » ou « Ah non, moi, je suis pas du tout réceptif à ce médicament-là », on commence à se demander « Est-ce que c'est vraiment le patient qui n'était pas réceptif ou si c'est pas son microbiote qui, dans notre dos, est venu désactiver la molécule parce qu'elle ressemblait peut-être au niveau chimique à un nutriment ou à une autre molécule qui est intéressante pour notre microbiote. » Et donc, si on comprend mieux ça, bien, ça va peut-être nous amener à avoir des traitements qui sont plus personnalisés où on dit « Madame une telle, vous avez tel type de microbiote, donc je vais vous donner des médicaments qui sont compatibles alors que votre mari a une autre type de microbiote, je vais lui donner d'autres médicaments qui sont compatibles avec ce microbiote-là et qui vont peut-être traiter le même trouble de santé.
Je lisais, Patrick, un chercheur qui disait peut-être, il rêvait, là, bien sûr, on est loin de ça, mais que peut-être éventuellement, on pourrait avoir des prises de microbiote comme on a des prises de sang, des analyses sanguines.
Oui, puis même, j'ai vu aussi des sujets de recherche où on se disait que de plus en plus que le microbiote pourrait peut-être servir à identifier les gens, à quel point, un peu comme nos empreintes digitales, notre ADN, à quel point il est unique puis à quel point il est singulier à chaque individu. Et donc, c'est un peu dans ce sens-là là, que aussi il y a certaines recherches qui évoluent.
On pourrait faire un lien aussi avec l'espèce de greffe, là, c'est peut-être pas le bon terme, de matière fécale pour le traitement de cancer du côlon. On commence à voir ça aussi.
Ou surtout d'infections assez difficiles ou ce qu'on appelle la transplantation fécale parce qu'il faut savoir que l'infection assez difficile va se développer chez principalement chez des patients hospitalisés qui ont reçu des antibiotiques, que la flore bactérienne est altérée, terrain propice pour l'infection assez difficile. Et souvent, il y a des infections qui sont récurrentes parce que une fois que la bactérie est là, elle a pas, on dit, hein, elle est difficile, elle n'a pas envie de partir.
Ouais.
Et on se dit que si on prend le microbiote d'une personne qui est en santé et qu'on le transfère dans celle qui est malade, bien peut-être que l'ensemble de ces bactéries-là, en travaillant ensemble, vont être capables de venir à bout de l'infection. Donc, c'est une une des alternatives.
En terminant, comment on s'assure d'un microbiote en santé? On l'a dit tout à l'heure, alimentation variée. Est-ce qu'il y a d'autres façons?
Je vous dirais bonne hygiène de vie, s'assurer d'avoir le sommeil, bien manger, faire de l'activité physique. Donc, tout ce qui nous rend en santé notre corps, bien, va rendre en santé la flore, bien, le microbiote qui y vit.
Oui. Tout à l'heure, je parlais de ce livre de Goulian Enders. Est-ce que vous en avez, vous, des lectures, Patrick, en ce sens-là, ou c'est un petit peu trop hermétique, là, nous qui ne sommes pas microbiologistes?
Bien, je vous dirais que pour l'instant, c'est surtout des publications scientifiques là, que j'ai comme lecture de chevet, mais j'ai pas de doute que, comme vous soulignez, là, des livres qui sont vulgarisés de bonne qualité puis qui vont donner vraiment des renseignements. Mais pour l'instant, au niveau de la science, considérant qu'on essaye encore de comprendre, éventuellement, je suis convaincu qu'on va en arriver avec une littérature qui va être plus accessible puis surtout qui va aider les gens à changer leurs habitudes de vie pour le mieux.
Ouais, tout ça est fascinant. Je vous le recommande, en tout cas, lecture d'été, mais peut-être que vous trouveriez ça un petit peu trop facile. Patrick Despaquettes, je le rappelle, vous êtes microbiologiste agréé, biochimiste et président de l'Association des microbiologistes du Québec. Toujours un plaisir de vous parler.
Fait plaisir. Au revoir.